VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel. Nous sommes mercredi 14 février 2018 au sommaire. Le président sud-africain Jacob Zuma dénonce les appels pour sa démission. L'ANC a déposé une motion de défiance. Au Tchad, 17 personnes ont été condamnées à 4 mois de prison ferme pour troubles à l'ordre public. Au moins 10 djihadistes présumés ont été tués lors d'une opération de la force Barkhane dans le nord-est du Mali. Et les États-Unis qui augmentent leur aide annuelle à la Jordanie, un allié important de Washington. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a refusé de dire s'il acceptait ou pas de démissionner, comme l'exige l'ANC. Lors d'un entretien télévisé sur la chaîne publique SABC, il a assuré qu'il s'exprimerait plus tard alors que l'ANC a déposé une motion de défiance. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Je n'ai rien fait de mal. Je suis en désaccord avec la décision de l'ANC, a déclaré le président Jacob Zuma, ajoutant, je cite, « Si le Parlement dit qu'il ne veut pas de moi, je partirai. » Il a promis de faire une déclaration plus tard et l'ANC dit attendre cette intervention. Les députés ont prévu se prononcer demain jeudi sur une motion de défiance contre le président Zuma s'il n'a pas remis sa démission d'ici là. Le président sud-africain estime que la décision de l'ANC de le rappeler est basée sur une mauvaise interprétation des textes. L'ANC s'est doté en décembre d'un nouveau leader, Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. D'ailleurs, la police a perquisitionné aujourd'hui le domicile de la famille Gupta à Johannesburg et arrêté 3 personnes. D'après elle, l'opération est liée au scandale des détournements de fonds et de trafic d'influence à la tête de l'État impliquant le président Jacob Zuma.
Au Tchad, le procès d'une cinquantaine de personnes arrêtées par la police nationale lors de différentes manifestations contre les mesures d'austérité s'est tenu ce matin au palais de justice de N'Djamena. 16 personnes ont été relaxées, d'autres condamnées à des mois d'emprisonnement ferme. André Konajingar, correspondant de la VOA, nous fait le point.
Poursuivi pour destruction de biens, attroupement non autorisé, trouble à l'ordre public, coups et blessures volontaires sur les éléments de force de l'ordre, 3 prévenus ont été relaxés pour vice de procédure, 13 autres relaxés au bénéfice du doute. Une trentaine de prévenus écopent 4 mois de prison ferme chacun. Plusieurs personnes arrêtées dans la même circonstance attendent d'être fixées sur leur sort pour faire des grèves des magistrats. Au niveau du parquet, personne n'est en mesure de donner le nombre exact des personnes arrêtées. Vu la surpopulation des détenus à la maison d'arrêt de N'Djamena, le procureur de la République, Mohamed Saleh Youssouf, a déclaré que ceux qui sont condamnés doivent être transférés dans un autre centre de détention du pays.
Il n'est pas exclu que des personnes poursuivies dans le cadre de troubles à l'ordre public soient au même titre que les autres condamnés réorientés vers d'autres centres pénitentiaires pour purger leur peine.
Pour l'avocat de la partie civile, Maître Mida Ngirimaï, les qualifications retenues contre ses clients ne tiennent pas du point de vue des droits, car, dit-il, même s'il y a attroupement, la loi dit que les forces de l'ordre doivent faire 3 fois des tirs de sommation avant de procéder aux arrestations des récidivistes. Or, il n'en est rien dans ce dossier. Maître Midaï entend faire valoir le droit de recours pour obtenir la libération de ses clients. André Kodmadjingar N'Djamena, VO Afrique.
De violents combats ont éclaté hier dans l'est de la République démocratique du Congo après une incursion de l'armée rwandaise en territoire congolais. Selon un porte-parole de l'armée cité par l'AFP, les FARDC ont mené des combats sur le sol congolais à la frontière avec le Rwanda dans la province du Nord Kivu. Il y a eu des morts de part et d'autre, a déclaré un haut gradé de l'armée de la RDC sous couvert de l'anonymat. Toujours en RDC, 5 personnes sont mortes et 11 autres blessées lors d'un accident dans le cortège du président Joseph Kabila dans le sud-ouest du pays. Un véhicule de l'escorte présidentielle a été heurté par un poids lourd qui transportait du ciment, selon un responsable de la présidence. 3 militaires de la garde républicaine ont été tués dans cet accident, mais aussi 2 riverains qui se trouvaient sur le lieu, a-t-il ajouté. Au Burundi, la police met en garde tous ceux qui s'opposent au référendum constitutionnel prévu en mai. Les forces de l'ordre ont arrêté des élèves et un enseignant qui faisaient une campagne pour le non. Les précisions de Blanche Sanou.
Je lance un avertissement et une mise en garde à toute personne qui, par son action ou son verbe, tentera d'entraver ce processus. C'est sur un ton solennel que Pierre Kourounkiyeh, le porte-parole de la police, s'est exprimé à travers une vidéo postée sur le site de la Radio-Télévision nationale. Il ajoute que des élèves et instituteurs ont été arrêtés parce qu'ils faisaient une campagne de proximité pour inciter les gens à voter non. Par ailleurs, au moins 50 militants de l'opposition ont été incarcérés pour trouble à l'ordre public. Le gouvernement a lancé le 12 décembre une campagne d'explication autour de la réforme constitutionnelle, mais l'opposition dénonce une campagne à sens unique. Ce projet de révision de la Constitution permettra au président Pierre Nkurunziza de briguer à partir de 2020 deux autres mandats de 7 ans.
Au Burkina Faso, un policier a été tué, 2 blessés dans une attaque à Niata Bouani, dans l'est du pays. Selon la direction générale de la police, les forces de sécurité ont entrepris une opération de ratissage de la zone après cette attaque, la première enregistrée dans l'est du pays, a souligné la police. Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 3 ans, qui ont fait 133 morts et en 80 attaques, selon un bilan officiel. Dans le nord-est du Mali, à proximité de la frontière algérienne, au moins 10 djihadistes présumés ont été tués lors d'une opération aérienne de la force française Barkhane. Malgré la présence des forces étrangères et des Nations Unies au Mali, des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, cela en dépit donc de la signature d'un accord de paix en 2015 censé isoler les djihadistes. Et puis, une information qui vient de tomber, le chef du principal parti d'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, est décédé des suites d'un cancer, annonce de l'un des vice-présidents du parti, Elias Mudzuri. Morgan Tsvangirai ne se portait pas bien depuis un certain temps. Il était l'adversaire historique du régime de l'ex-président Robert Mugabe. Donc, information qu'on vient d'avoir. Morgan Tsvangirai, l'opposant historique au Zimbabwe, est décédé des suites d'un cancer. Et puis le Parlement marocain a définitivement adopté ce mercredi un projet de loi contre les violences faites aux femmes en discussion depuis 2013 et qui avait provoqué de vifs débats.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont allouer plus $1 milliard d'aide annuelle à la Jordanie. Un accord dans ce sens a été signé à Amman par le secrétaire d'État américain et son homologue jordanien. L'accord augmente de $275 millions l'aide annuelle de Washington à l'un de ses principaux alliés au Moyen-Orient. La Jordanie est l'un des plus importants pays bénéficiaires de l'aide américaine avec plus de $20 milliards reçus depuis 1951. La Banque mondiale et l'Irak ont signé aujourd'hui 2 projets de $510 millions. Ces fonds sont destinés à améliorer les conditions de vie des Irakiens, augmenter la distribution en eau et créer des emplois. Jean-Roger Bion.
La signature de ces projets s'est déroulée dans le cadre de la conférence internationale sur la reconstruction de l'Irak qui s'achève aujourd'hui à Koweït. Ces 2 projets s'ajoutent à un programme de développement déjà financé par la Banque mondiale à hauteur de $750 millions, ce qui porte l'engagement de l'institution en Irak à $4,7 milliards contre $600 millions il y a 4 ans. La Banque mondiale a précisé que cette aide apportera un soutien immédiat à la restauration de l'éducation et des services de santé, à la reconstruction des routes et ponts majeurs et à la réhabilitation de l'électricité et des systèmes d'eau. Au dernier jour de cette conférence, les promesses ont atteint $25 milliards, alors que les besoins sont estimés à $88 milliards pour aider à reconstruire le pays après 3 ans d'une guerre dévastatrice contre le groupe État islamique.
Le régime syrien a rejeté les accusations faisant état de possession d'armes chimiques. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Faisal Mokhtad, a estimé que leur utilisation était immorale et inacceptable, quel que soit le contexte. Ses propos interviennent au lendemain d'une mise en garde du président Emmanuel Macron, qui a assuré que la France mènerait des frappes en Syrie si elle avait des preuves avérées concernant l'utilisation de telles armes par le régime. La ministre britannique en charge du développement international a réclamé un changement radical dans la façon de travailler des ONG afin d'éviter un scandale sexuel comme celui qui entoure Oxfam. Elle menace de couper l'aide si ses gouvernements n'apportent pas les changements demandés. L'Oxfam est au centre d'un scandale après la découverte d'abus sexuels commis par certains de ses personnels en Haïti, au Tchad et au Soudan du Sud, mais aussi dans ses boutiques au Royaume-Uni. Et puis le pape François a célébré le mercredi des cendres, premier jour du carême, la période précédant Pâques, durant laquelle les catholiques sont appelés à des actions de jeûne et de pénitence. Il a mis en garde contre ceux qui sèment la méfiance. Au terme de cette célébration, le pape François a procédé au rite de l'imposition des cendres en traçant une croix sur la tête des fidèles, en symbole de la finitude de la vie humaine. Bon carême à tous nos amis chrétiens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Eric Menelekiza.
Le Fonds africain de développement au sein de la BAD a reçu du Japon un prêt de 700 millions de dollars. C'est pour soutenir les plans de développement des pays les plus pauvres d'Afrique. Le FAD espère donner un second souffle à la croissance économique des pays africains les moins avancés. Le pays du soleil levant devient ainsi le deuxième plus grand contributeur du Fonds africain de développement en termes cumulatifs. La Banque mondiale accorde au Bénin 482 milliards de dollars pour soutenir le programme d'action du gouvernement PAGE. D'ici à 2023, ce financement vise à renforcer la compétitivité et la productivité de l'économie du pays. Le renforcement du capital humain et la réduction des vulnérabilités liées au climat sont les deux derniers axes de ce financement. L'enveloppe accordée au Bénin s'élève à plus de 700 millions de dollars. Elle couvre le développement local et urbain, l'environnement, les télécommunications, l'emploi des jeunes, l'énergie, l'accès à l'eau potable et les transports. Les transactions financières mobiles au Kenya ont atteint 36 milliards de dollars en 2017. La Banque centrale parle d'une hausse de près de 3 milliards par rapport à 2016. La reprise des activités commerciales a favorisé cette dynamique. La valeur de ces transactions a bondi de 60% plus que les transferts monétaires pair à pair.
À présent, la page de sport avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La Ligue des Champions ce soir, le choc Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Un roi d'Europe à la peine, un ambitieux désireux de le détrôner, Real Madrid ou Paris Saint-Germain, le vainqueur de ce huitième de finale de la Ligue des Champions, plongera son adversaire dans le doute et la crise. Premier versant de ce sommet avec le coup d'envoi à Santiago Bernabeu à 19h45 temps universel. Même s'il a remporté les deux dernières Ligues des Champions et la Liga la saison dernière, le Real de Cristiano Ronaldo a perdu de sa superbe. Il n'a plus que la compétition reine pour sauver son année et surtout son entraîneur Zinedine Zidane. Quant au Paris Saint-Germain qui a déboursé plus de 400 millions d'euros sur le marché des transferts l'été dernier pour attirer la superstar Neymar et la puissance montante Kylian Mbappé, le PSG ne peut se permettre d'être éliminé dès les huitièmes de finale. Autre affiche ce soir, le FC Porto accueille Liverpool avec les Anglais, les Africains Salah et Sadio Mané face à Vincent Aboubakar pour les Portugais.
Manchester City s'est presque qualifié pour les quarts de finale.
Victoire nette et sans bavure en Suisse, 4-0 face au FC Bâle. Les Citizens, déjà dominateurs de la Première Ligue, songent donc au quart de finale avant le match retour. La Juventus croyait avoir fait le plus dur après le doublé de Gonzalo Higuain, mais les Spurs de Tottenham ont recollé au score pour un match de feu qui s'annonce en Angleterre pour le match retour.
Suite des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud.
Eh bien l'Allemagne est en tête, première au tableau des médailles avec 7 médailles d'or, suivie des Pays-Bas, 5 médailles dorées, une de plus que les États-Unis, troisième sur le podium. A noter que la Nigériane Simidela Adeagbo a terminé dernière de sa série de qualifications au skeleton en 55 secondes et 85 centièmes. À suivre ce jeudi, la Kenyane Simader au slalom.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Cavaliers de Cleveland, avec un grand LeBron James, 37 points, ont signé leur quatrième victoire d'affilée en allant battre Oklahoma City 120-112. Les Toronto Raptors, leaders de la conférence Est, ont remporté leur sixième victoire d'affilée contre Miami 115-112. Houston est allé battre Minneapolis 126-108. Encore une fois, un grand James Harden avec 34 points, 12 passes décisives et 6 rebonds. Enfin, les Spurs de San Antonio se sont inclinés face à Denver 109-117.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma doit s'exprimer ce soir sur son sort. Mais dans une interview diffusée en direct par la télévision publique SABC, Jacob Zuma a défendu son refus de quitter les fonctions, de quitter ses fonctions. Il a estimé qu'il n'a rien fait de mal. Le Parlement doit se réunir demain matin pour voter sur une motion de défiance et destituer le chef de l'État. Pour analyse, Eric Menarekiza a joint Lisolore Vaudran, chercheuse à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Il a dit qu'il va faire une déclaration éventuellement, mais rien n'est sûr parce qu'on a eu plusieurs annonces de ce genre et qu'à chaque fois c'est repoussé, etc. Donc, son seule option à ce moment, c'est de démissionner parce que son parti, l'ANC, a déjà annoncé que demain au Parlement, à 14h heure sud-africaine, donc jeudi, il y aura une motion de défiance qui va faire que de toute façon, Jacob Zuma va perdre son poste en tant que président. Donc c'est préférable qu'il démissionne parce que comme ça, il garde tous ses privilèges en tant qu'ancien chef d'État, mais apparemment, il reste quelques heures avant minuit, la date limite que l'ANC lui a donnée pour démissionner. S'il ne démissionne pas, il sera devant le Parlement et de toute façon, donc vendredi, il y aura un nouveau président de l'Afrique du Sud qui s'appelle Ramaphosa, qui a gagné les élections à l'ANC en décembre 2017.
Ce n'est pas Cyril Ramaphosa qui doit le succéder immédiatement. Il y a des mécanismes à suivre.
Oui, il y aura peut-être 24 heures ou 48 heures où la présidente de l'Assemblée nationale sera présidente par intérim. Mais tout de suite, le plan annoncé par l'ANC, c'est que vendredi, donc jeudi, vote de défiance. Vendredi, le Parlement va élire Cyril Ramaphosa. Et vendredi soir, il y aura une annonce de
State
of the Nation Address. C'est une grande cérémonie annuelle qui était prévue donc la semaine dernière, qui a été annulée parce que justement il y avait ce drame autour de Jacob Zuma. Et donc, selon l'ANC, selon ce qui est prévu, vendredi soir, il y aura cette cérémonie. Bon, les choses en Afrique du Sud évoluent très vite.
Est-ce que vous pensez que Jacob Zuma a assez de soutien pour faire échouer ce vote?
Non. Tous les membres de l'opposition voteront contre Zuma, mais les membres de l'ANC vont aussi être obligés de voter contre Jacob Zuma. Bien sûr que Jacob Zuma a du soutien, beaucoup, même de ses ministres, même par exemple son ex-femme, Kosazana Dlamini Zuma, au sein du Parlement. Mais si ces individus-là décident de voter pour Zuma, c'est comme s'ils vont au contraire aux consignes de vote de leur propre part. Zuma va perdre lors de cette vote de défiance au Parlement.
C'était Lisolore Vaudran, chercheuse à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Dans Washington Forum, ce jeudi 15 février, en Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, exige la démission du président Jacob Zuma, dont le second mandat prend fin en 2019, mais il refuse de démissionner. Pourquoi était-ce si difficile pour l'ANC de décider du sort de Jacob Zuma, malgré son implication présumée dans de nombreuses affaires de corruption? Le parti au pouvoir va-t-il survivre? Qui peut incarner ce qui reste de l'héritage de Nelson Mandela? Quel impact sur la l'avenir de l'Afrique du Sud? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Géroudin et ses invités.
La question du système de vote électronique auquel Washington s'oppose en RDC à présent. Dans une interview accordée à Eddie Isango, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a déclaré qu'il n'y aura pas d'élection en décembre sans recours à la machine à voter. On l'écoute.
Madame Nikki a s'est exprimé en disant qu'il était contre le vote électronique. Et nous aussi, nous sommes d'accord avec elle dans la mesure où nous ne proposons pas à la République démocratique du Congo le vote électronique. C'est impossible d'organiser les élections en faisant un vote électronique. Et que signifie un vote électronique? Un vote électronique, c'est un vote sans utilisation de bulletins papier, où les bulletins sont plutôt virtuels. Ce n'est pas ce que nous proposons au Congo. Deuxièmement, Mme Niki nous a conseillé de procéder à l'utilisation de bulletins papier. Et nous disons, nous parlons le même langage, parce que pour les élections du 23 décembre, nous allons utiliser le bulletin papier. Donc nous disons la même chose, sauf que nous ne partons pas sur les mêmes bases. Ce que nous faisons, c'est juste que non, nous avons miniaturisé le bulletin de vote. Au lieu d'avoir un bulletin de 40-60 pages à donner à chaque électeur, ce sera le vote où chaque électeur viendra trouver un bulletin de vote vierge, il le fera imprimer au bureau de vote et il n'aura qu'à prendre son bulletin de vote et le serrer dans l'urne et le comptage se fera manuellement, comme ça a toujours été le cas. Nous disons donc la même chose. Ceci dit, il faut aussi se poser toute la question. En quoi ce débat concerne le Conseil de sécurité? C'est un problème interne de la République démocratique du Congo et surtout de la Commission électorale indépendante qui est une institution indépendante. Entre-temps, la CENI reste ouverte parce que nous avons fait, en fait, une planification en se basant sur un certain nombre de contraintes pour tenir la date du 23 décembre.
La machine à voter fait donc partie de ces contraintes.
Non, malheureusement, ce qui est sûr, nous allons avoir les élections le 23 décembre, mais malheureusement, la planification de notre calendrier a été basée sur l'utilisation de cette machine. Ça veut donc dire que sans l'utilisation de la machine à voter, il ne sera pas possible de garantir la tenue des élections le 23 décembre.
Comment alors établir le climat de confiance dès lors qu'il y a un doute de la part de certaines organisations politiques ou de ceux qui vont participer à ces élections?
Même si on n'utilise pas la machine à voter, le doute sera toujours là. Mais en utilisant la machine à voter, le doute peut être là. Il nous appartient de travailler pour que chacun se mette en confiance pour aller aux élections le 23 décembre prochain. La machine à voter nous permet de réduire le budget des élections de 560 millions de dollars à 432 millions de dollars. Et pour ça, il n'y a personne qui a les 150 millions à trouver encore pour donner, même les États-Unis qui ne financent pas les élections au Congo.
C'était Corneille Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante de passage à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans le nord du Sénégal, la langue de Barbarie est une bande de terre large de 200 à 400 mètres sur une longueur de 40 km au confluent de l'océan Atlantique et du fleuve Sénégal. Cette zone est aujourd'hui menacée par l'avancée de la mer. À Saint-Louis, 440 maisons sont impactées par l'érosion côtière et seront donc déplacées. Leurs occupants seront relogés par les autorités. Le quartier Guendar est l'un des plus touchés par ce phénomène. Reportage sur place, Seydina Abagay.
À Guendar, les populations vivent difficilement l'avancée de la mer. Au-delà des lieux d'habitation, les deux seules écoles que compte le quartier sont menacées par les eaux, comme l'affirme Harun Ndiaye, résident de Guendar et président de l'association des parents d'élèves.
Mais on vit ça très difficilement. D'abord, avant de parler des écoles, presque toutes nos maisons sont détruites, ce qui reste sont menacées. S'il y a un problème des berges, on avait là-bas vraiment des écoles coraniques. On les a détruits, c'est normal, peut-être qu'il y a des travaux à faire. Okay? Il nous reste maintenant l'école publique, l'école française, comme on dit chez nous. C'est deux écoles. Mais si vraiment on détruit une partie de l'école, mais ça va nous porter préjudice. Mais pas à moi, mais à nos petits-enfants. Ils ont des problèmes pour se déplacer, ils ont des problèmes de classe.
Pour Harun Ndiaye, l'érosion côtière impacte négativement l'éducation des enfants et favorise l'abandon de l'école pour le métier de pêcheur.
Les élèves de Guendar, on a réussi à les maintenir à l'école, mais c'est la perdition totale. Parce que l'enfant guendarien, il est productif à l'âge de 10 ans. S'il n'a pas l'école, il y a la mère. Et l'enfant est productif. Et nous avons essayé, réussi depuis 2005 à les conserver. Maintenant, voilà, s'ils n'ont plus de classe, ce ne font qu'alterner, Ils vont retourner en mer et ça, c'est pas, c'est très négatif.
Présente à Saint-Louis depuis plus de 35 ans, l'ONG Le Partenariat apporte un soutien considérable dans la protection de l'environnement. Nicolas Dupuis, directeur de la structure, estime que l'implication des habitants de Guendar est capitale dans la lutte contre l'érosion côtière.
Sur cette partie-là, alors ces problématiques qui sont des problématiques extrêmement graves et importantes pour Saint-Louis, on essaye d'appuyer la mise en place de cadres de concertation, de renforcer aussi les capacités des acteurs en leur proposant des sensibilisations et des formations, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi qui peuvent être menées par les populations elles-mêmes. On a mené des actions de reboisement dans l'aire marine protégée de Saint-Louis. Ce sont des jeunes du quartier de Guendar et d'Hydrobase qui sont venus faire les actions de reboisement et qui continuent à travailler avec le service des eaux et forêts, avec l'aire marine protégée, pour préserver leur environnement.
En attendant les 15 millions d'euros promis par la France, l'État du Sénégal a entamé des travaux contre l'érosion côtière avec un budget de 4 milliards de francs CFA. Cette somme servira à la construction d'une digue de protection le long de la langue de Barbarie. À Saint-Louis, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h tout universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. C'est au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
À la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. La mise en onde, il y avait Georges Léonard Sagnon, à la console Patrick Deya, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis condamnent l'arrestation d'au moins 29 manifestants iraniens pour avoir exercé leurs droits et libertés fondamentales en protestant contre le port obligatoire du hijab. La porte-parole du département d'État, Heather Nauert, dans une déclaration écrite, a souligné que les États-Unis demeurent fermes dans leur soutien à la liberté de religion, d'expression et de rassemblement pacifique. Le président Donald Trump a dit, de son côté, que le peuple iranien est la source des plus grandes craintes du gouvernement iranien. Cette peur s'est encore affichée dans la réaction du régime vis-à-vis des femmes protestant contre le port obligatoire du hijab. Des images et vidéos des femmes iraniennes sans voile, agitant leur hijab, se sont propagées à travers les médias sociaux. Certains hommes et des femmes voilées ont également protesté contre l'imposition du hijab. Ils ont été motivés et inspirés par l'action d'une jeune iranienne qui était debout sur une caisse en bordure de la rue de la Révolution à Téhéran avant le début des manifestations massives contre le gouvernement à la fin de décembre. La lutte contre l'imposition du hijab n'a rien à voir avec la question de savoir si le hijab est bon ou mauvais. C'est une question de choix, d'égalité, a écrit sur les médias sociaux Omid Bemarian, une journaliste basée aux États-Unis qui a été une fois emprisonnée en Iran. Ainsi que l'a relevé le rapport 2016 du département d'État sur les droits humains, la marche des femmes iraniennes est limitée dans tous les domaines de la société. Non seulement elles doivent obligatoirement porter le hijab, mais leur témoignage en justice vaut la moitié de celui d'un homme. Elles ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants ou leurs époux étrangers. Des restrictions sociales et légales limitent leurs opportunités éducatives et professionnelles et elles sont punies de manière disproportionnée pour certains crimes. Les femmes en Iran méritent mieux. Elles méritent de se voir accorder leurs droits fondamentaux, ainsi que soulignent les manifestations contre le port obligatoire du hijab. Ainsi que l'a dit la porte-parole du département d'État, Nauert, les gens doivent être libres de porter les vêtements de leur choix et pratiquer la religion qu'ils désirent. Priver les individus de ce choix sape leur autonomie et leur dignité.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.